Le masque et la plume, c'est tous les dimanches soirs sur France Inter à partir de 20h. Masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité du cinéma. Avec la princesse Charlotte Lipinska de Vogue et les Terminators de la critique, j'ai nommé Michel Simon de Positif, Jean-Marc Lalanne, le patron des Inrecuptibles, Xavier Le Herpeur de 7ème Obsession et d'une heure en série tous les samedis soirs à 20h. On parle ce soir des films de Xavier Dolan, Toledano et Nakash, Ken Loach, Boris Lochkin, Pietro Marcello, mais également à la demande de Xavier, de Maléfique, le pouvoir du mal, où tu as retrouvé ta chère Elle Fanning.
Ah oui.
Et puis, à la demande de Charlotte, Terminator, puisqu'elle l'a vu en 4DX, ce qui nous prouve qu'elle est maso. dans le courrier de la semaine, je comptais lire le courrier désobligeant, que ce sera pour une prochaine fois, que nous a valu la critique de Au nom de la terre, le film d'Edouard Bergeon, sans imaginer ce que nous vaudrait, me vaudrait d'avoir exprimé 15 jours plus tard de sérieuses réserves sur le Joker de Todd Phillips, c'est-à-dire une avalanche ininterrompue qui continue encore aujourd'hui, de centaines et de centaines de messages d'auditeurs exaspérés, certains même d'ailleurs demandant la suppression du masque et la plume. Oui, mais je rigole pas, parce que c'est souvent sincère. Parfois, c'est pire d'ailleurs ce qu'on nous dit. Je ne peux pas tout lire, donc voici au moins quelques extraits. On commence par les messages venus de l'étranger. Olivier Tossan de Los Angeles. Ma mâchoire inférieure se décroche en vous entendant démolir ce chef-d'œuvre très sombre et d'une intensité incroyable. Fabien Banaletti de Singapour se demande comment on peut réduire la performance de Joaquin Phoenix à une quête pour l'Oscar. Laurent Bardou, qui habite Tripoli au Liban, salue la performance de Joaquin Phoenix, sa sensualité, sa douceur inquiétante, sa métamorphose et ses névroses, à l'image de cette ville plongée dans le délire collectif. Clément Rossignol d'Amsterdam ne comprend pas comment vous avez pu passer à côté de cette démonstration magistrale sur la genèse de la violence dans notre société. Lucille de Paris se fiche que Joaquin Phoenix en fasse des tonnes. Parce qu'il y va, il se dépasse et je marche à fond avec lui. Selon Juliette de Bruxelles en Belgique, malgré votre masque et votre super mauvaise foi, vous ne comprenez rien au super vilain. Nathan Aznar, qui habite Cambremer dans le Calvados, qui a 16 ans, nous écrit « Je vous plains ». Car il doit être si triste et fade de vivre sans avoir pu ou su apprécier ce chef-d'œuvre qu'est le Joker de Todd Phillips. Bon courage à vous, vous pouvez compter sur mon soutien psychologique. Et il a 16 ans, hein. Je sais pas ce que ça va donner. Michel Belin de Boulogne-Billancourt nous écrit « Votre charge outrancière est un saisissant et involontaire hommage au génial Joker qui cache mal sous son rimmel une pathétique impuissance et une hargne perverse. » Lina Janin de Paris dit « Bravo à Todd Phillips pour ce film sur la violence du monde et de nos sociétés. Un film aussi noir que réaliste et brillant. David Simonet est sous le choc. Ce film me hante. Parce que c'est un chef-d'œuvre, que vous le vouliez ou non, avec une performance d'acteur comme j'en ai rarement vu dans ma vie. Pour Jérôme Galetti, Todd Phillips n'avait aucune chance auprès des critiques du Masque et la Plume, adorateur de l'insipide réalisateur de Ad Astra. Karine C. de Chamalières, vous trouvez ce film surjoué, vous auriez détesté Orange Mécanique, La Grande Bouffe ou même Les Valseuses. C'est un film métaphorique et lucide, théâtral et splendide avec un acteur habité. Bon, je peux pas tout lire, hein. Je suis passé à côté de vos critiques, écrit Christophe Bobillon de Lyon. autant que vous à côté du film, eh bien, m'en a pris. Quant à, oui, à William Benedetto de Marseille, ne pas prendre en considération ce film et le refuser en bloc est une faute professionnelle. Vos critiques devraient être écartées pendant quelque temps de l'émission. Tu veux rester
Ah bah, tu es producteur, tu me dis, hein, moi je sors, alors, j'obéis. Hein.
Quand même, il y a quand même quelques soutiens en France, hein, pas à l'étranger. Nathan Menez, qui a 20 ans, se réjouit de voir les critiques du Masque et la Plume aller à contre-courant, car non, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Il serait temps d'aller voir autre chose pour les jeunes gens de mon âge de 20 ans que des Marvel et se confronter à du vrai cinéma. Raphaël, qui a 16 ans, félicite les Masqués et Plumés pour leur franchise concernant le Joker. Cela fait du bien de vous avoir à mes côtés. On est mal à l'aise dans ce film, on s'ennuie, aucune poésie n'émane du film ni du personnage. Bref, on est bien content quand ça s'arrête. Arnaud de Nancy, cher Plume, cher Goudron, quel bonheur de vous avoir entendu sur ce jus de fruits sans saveur qu'est le Joker. Un film jamais incarné, si ce n'est par un acteur en roue libre, une bande-annonce de 2 heures, des images esthétisantes faites pour poser sur les murs de chambres d'ado. Bref, un film putassier. Pour Bruno Vigdu, Joker, c'est un attrape-statuette et pas grand-chose de plus. À quand un film qui montrera que Joaquin Phoenix sait jouer autre chose que des désaxés, ou encore Olivier Varlet, énervé par le Joker de Todd Phillips. Une suite de clichés sur le trauma, un amoncellement de poncifs sur l'enfance volée ou Nolwenn Béchu, film lent, scène déjà vue et mal faite. Sur le côté apologie de la méchanceté, je vous rejoins, ou Nico de Salon de Provence. Aucune intention, aucune nouveauté, aucune originalité, pas de finalité, du vide pathos avec de la musique bien pensante. Et enfin, Pascal Hénard de Bourg-les-Valence exprime un accord parfait avec le Masque sur Joker. J'y suis allé le lendemain de l'émission et ce que j'ai vu est au-dessous de ce que j'ai entendu. Et il dénonce le scénario confus, des longueurs et une accumulation de clichés. Bref, violence pour violence, la bataille fait rage chez nos auditeurs. Rien à ajouter, Xavier ?
Ben non, écoute, pour l'instant, je suis encore en vie, à peine poursuivi par les défenseurs du Joker. J'espère que ça va durer.
Et c'est étonnamment massif.
Et particulièrement violent.
Voilà.
Donc, je pense que c'est un peu la roulette russe, le Masque. Parce qu'il y aurait eu 4 autres critiques différents, puisqu'on alterne. Joker aurait eu peut-être des critiques bien meilleures.
Tu en penses du bien ?
Moi, je pense que ce film ne mérite ni cet excès d'honneur, c'est pas du tout un grand film, ni cette indignité, c'est un film abominable et très mauvais. Je crois que c'est ni l'un ni l'autre, c'est un film intéressant, mais on peut discuter son idéologie.
Michel.
Voilà, mais je pense que c'est vraiment aussi
c'est un ancien du Masque. Tu enlèves au Masque et la Plume ses excès.
Mais bien sûr.
Il n'y a plus de Masque
et la
Plume.
Non, mais je suis pas contre les excès. Je dis simplement
voilà.
Que c'est,
mais oui, non, mais c'est
avec
aussi
une autre
loi.
Composition.
Faut, mais bien sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que parfois ça dérape, parfois c'est excessif, mais je pense que c'est ce qui fait aussi le sel de cette émission. Mais si vous n'êtes pas d'accord, on peut aussi complètement l'arrêter. En compétition à Cannes. D'où il est reparti bredouille. Mathias et Maxime, le 8e film de Xavier Dolan. Qu'il a écrit, qu'il a réalisé, qu'il a joué, qu'il a produit. Parfois, d'ailleurs, c'est lui qui nous donne les tickets quand on veut rentrer dans la salle. Avec Xavier Dolan, Gabriel d'Almeida Freitas et Anne Dorval. Un film où deux amis d'enfance, Mathias, c'est donc Gabriel d'Almeida Freitas qui est en couple, et Maxime, c'est Xavier Dolan, barman aussi tatoué que Xavier Le Herpeur, qui s'apprête à partir pour l'Australie, se découvrent attirés l'un par l'autre après un baiser pour de faux lors du tournage très amateur d'un court-métrage en Super 8. Maxime a une grande tache de vin sur le visage et, je le dis vraiment sans jeu de mots, une mère alcoolique qui est incarnée par Anne Dorval autour d'eux dans un chalet au bord d'un lac, une bande de potes qui parlent en franglais et beaucoup en joual. À noter, alors je ne sais pas si c'est vrai, que d'après Dolan, c'est le dernier chapitre de son cycle consacré à la jeunesse. Xavier, qu'en penses-tu ?
Bah oui, il a quand même 30 ans, donc là, il y a un moment, il va pouvoir parler très très longtemps d'une jeunesse qui est en train de s'éloigner. En même temps, alors je sais que Jean-Marc Lalanne, qui est juste à côté de moi, m'a déjà menacé avant l'émission. Si tu dis du mal du Xavier Dolan, je te frappe. Donc je vais me reculer un tout petit peu. Je trouve ça d'une immaturité, mais absolue. C'est-à-dire qu'il a 30 ans, on a l'impression qu'il inverse la courbe. C'est-à-dire qu'il était plus mature quand il faisait ses premiers films que maintenant. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il a sorti un vieux scénario du tiroir, un truc qu'il a écrit à 12 ans en pleurant et en écoutant Céline Dion en boucle. C'est pas possible, la personne même. Enfin, je trouve que
tout est, oui, immature, enfantin. Alors donc on est dans ce chalet, ils sont tous hystériques à se hurler des choses qui les font rire. On essaie d'attraper deux, trois saillies comme ça par les sous-titres. Mais on est très vite exclu de ce groupe qui dit s'aimer, mais je n'en vois pas une trace. Et donc une fille encore plus hystérique, mais comme le sont toutes les femmes, malheureusement, dans le film, il y a un vrai souci quand même de représentation de la gente féminine. Dans le matière, c'est Maxime. Tu ne me frappes toujours pas, Jean-Marc? Là, il faut mordre son cou, là. Quand même. Il y a la main qui commence à se rapprocher dangereusement de ma joue. Elle arrive, elle leur dit, on va faire un film pour de faux et vous allez vous embrasser. Et là, subitement, si on ouvre la boîte de Pandore, oh mon Dieu, deux lèvres de garçon se sont frôlées. Et subitement, ce sont toutes leurs certitudes.
Alors, il y a un passé aussi.
Il y a un passé. Mais enfin, on a l'impression que le film aussi appartient au passé. C'est-à-dire qu'on pouvait le comprendre en 1950. En 2019, deux garçons qui s'embrassent en plus pour de faux et qui subitement se mettent à se dire oh, « Mais peut-être que je suis homosexuel. » Alors là, il y en a un pour lequel c'est moins grave. C'est évidemment le personnage de Xavier Dolan qui, pour bien souligner qu'il est très beau, s'est défiguré à l'écran. C'est quand même une coquetterie mais de pucelle, mon Dieu. Et alors, en face de lui...
Tu penses que c'est pour ça qu'il l'a fait, ça? Je suis pas sûr.
Ça intervient quelque part à un moment ou un autre dans l'histoire?
Non.
Donc voilà, ma démonstration est bouclée. Et l'autre qui, évidemment, est son opposé, marié, attendant un enfant et tout ça. Donc le trouble arrive. Passionnant sujet. Non, mais je plaisante en disant que le film est daté. Bien sûr qu'on peut découvrir, même en 2019, un désir qu'on a refoulé, qu'on a dénié, pourquoi pas. Mais dans cette crise d'hystérie, dont rien ne surnage, aucune finesse. Et alors, on va en parler dans le détail, mais la scène où enfin ils vont peut-être passer à l'acte. Enfin, je trouve vraiment que c'est un film de gamin doué, c'est incontestable, à qui on l'a tellement dit qu'il le croit, et qui est en train de nous sortir des vieux trucs, c'est-à-dire, qui se débarrasse de son bureau d'enfance.
Petite précision.
Et qui brûle les vieux
petite
sérieux.
Petite précision, puisqu'on l'a vu à Cannes, il avait été plutôt mal accueilli à Cannes. Hein. Ça n'a pas été un...
Non, c'était pas positif.
Il est passé inaperçu. Il a pas non plus suscité un rejet.
Enfin, la presse étrangère, c'était pas bon. Ouais. Hein.
Mais la presse française le soutient. Mais pourquoi pas?
Alors,
aller, hein.
Jean-Marc.
Ben non, moi j'aime beaucoup et je suis un admirateur de Xavier Dolan. Je trouve que ce film est très beau. Le précédent, qui pour le coup lui avait vraiment été mal reçu, que je trouvais aussi très beau, est un film extrêmement ambitieux. Là, il est revenu sur un plus petit format. Et il y a quelque chose de bouleversant dans la manière dont effectivement il a 30 ans et il filme la jeunesse, mais comme quelqu'un qui est en train d'en sortir. Et le film est à la fois très doux, pas du tout hystérique, contrairement à ce qu'a dit Xavier. C'est peut-être son film le plus doux. À part les scènes avec la mère jouée par Anne Dorval, il y a plutôt une espèce de bonne humeur quand même qui domine le film. Là, je trouve que le film est plutôt fait sur la douceur de vivre, la douceur d'être en groupe. Il a assez peu filmé autant d'acteurs à la fois, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plans où il y a 6 ou 7 comédiens qui jouent ensemble, qui parlent en même temps, et je trouve que c'est un excellent directeur d'acteurs en groupe, et que sur ce que c'est qu'une bande, ce que serait le bonheur et la joie d'être ensemble, le film est très émouvant, et moi je pense pas que c'est de la coquetterie cette tâche. Je pense que tout le cinéma de Xavier Dolan est vraiment travaillé par une haine de soi, que pour la première fois ils rendent visible. Et je pense qu'il y a un dégoût de soi-même. Enfin, tu disais qu'il était très beau et c'est manifestement vrai, mais je ne pense pas qu'il se vit comme tel et que le film rend vraiment tangible par cette tâche une sorte de honte d'être soi, qui est aussi le sujet du film, puisque le sujet du film, c'est l'homophobie intériorisée par quelqu'un qui est homosexuel. Ah. Effectivement, il n'y a aucune censure autour d'eux, il y a juste une difficulté... à l'assumer, mais qui est un conflit intime et pas du tout en rapport d'opposition à la société. Et enfin, ça aussi, je trouve ça
Jean-Marc,
très fin et très beau.
Permets-moi de te dire que Xavier Dolan d'un côté et haine de soi de l'autre, ça fait un peu oxymore quand même. Hein.
Ah, je pense que c'est quelqu'un de... Enfin, peut-être qu'il y a une part de mégalomanie, c'est souvent ce qu'on pointe chez lui. Je pense qu'il y a quelque chose de très problématique qu'il a à lui-même, à son apparence, et que ça filtre dans tous les films, et que c'est particulièrement le sujet dans celui-là.
Charlotte.
C'est-à-dire ces fameux adieux à la jeunesse, pour moi, le petit problème du film, c'est que le film aurait été interprété par des comédiens plus jeunes, c'est-à-dire le même scénario qui, effectivement, avouons-le, comme le dit Xavier, n'a pas un enjeu complètement dingue non plus, mais les comédiens auraient 22, 23 ans, ce questionnement sur leur sexualité serait beaucoup plus audible et recevable pour nous spectateurs, alors que là, on voit quand même des jeunes adultes où on se dit, mince, ils auraient pu régler ce problème depuis longtemps, et d'une certaine manière, je trouve que les acteurs sont trop âgés pour ces rôles-là.
Alors, ça n'aurait pas changé grand-chose à cette fameuse baiser pour de faux qui n'a...
Non, sauf que c'est peut-être plus troublant pour un jeune garçon de 20 ans que pour un de 30, qui a déjà quand même avancé dans la vie. Quand on aime le cinéma de Xavier Dolan, c'est sûr qu'on retrouve un peu tous ces motifs récurrents, donc ce fameux passage à l'âge adulte dont on parlait, le questionnement sur sa sexualité, la figure de la mère toxique et défaillante. Je me demandais, il devrait y avoir des thèses universitaires de cinéphiles sur la figure de la mère dans le cinéma de Xavier Dolan, parce que ça revient quand même constamment. Mais là, en termes de mise en...
Là, il y a quand même un contre-modèle, c'est-à-dire qu'il y a une mère effectivement
plus sorcière. Oui, il y en a une autre aimante.
Il y a une mère plutôt aimante.
Vers laquelle il se tourne. Mais ce qui m'a un peu réconcilié là, par rapport à ses films précédents avec Xavier Dolan, c'est qu'il s'est quand même enfin un peu débarrassé aussi de son emphase opératique, c'est-à-dire les ralentis, la musique qui envahit l'écran. Je trouve le film plus sobre, même s'il est toujours dans une énergie et une sorte de vitalité tendue de bout en bout. Et finalement, je trouve qu'il filme assez bien le trouble, parce qu'il n'est question que de ça, de ce trouble entre ces deux garçons et de cette chronique d'un amour qui n'advient jamais, un amour qui se construit sur l'échappement de l'autre, sur son absence, sur son déni, voire ses pas en arrière. Voilà, les acteurs sont plutôt bien, mais c'est loin d'être un grand Michel. Film de Xavier Dolan.
Oui, c'est vrai qu'il y a un retournement sur ce film depuis Cannes, puisqu'à Cannes, l'accueil est vraiment pas bon.
Il était pas bon, c'est ce que je disais.
Pas bon, oui. Et c'est vrai qu'à Paris, on l'a redécouvert d'un seul coup, dans beaucoup de journaux, un très grand Xavier Dolan. Moi, je pense que d'abord, il sortait d'une expérience traumatisante à Hollywood. C'est son premier film à Hollywood, Ma vie avec John Donovan, qui s'est pas bien passé. Il avait des vrais problèmes. Donc, il s'est réfugié un peu dans le cocon protecteur de ce qu'il sait faire, c'est-à-dire des bandes de potes.
Sa ville.
Mais je trouve que il est vraiment tout de même encore très jeune pour se pasticher. On a l'impression d'un vieux metteur en scène qui se réfugie dans une sorte de pastiche de lui-même. Et c'est vrai que cette caméra qui tournoie en permanence, ces bavardages incessants, cette mère alcoolique, etc., qu'on a déjà vu plusieurs fois, on en a un peu assez. C'est-à-dire on attendrait de lui une maturité qu'il n'a pas trouvé encore. Alors c'est quelqu'un de très doué, et ses premiers films, et même jusqu'à Mommy était un film assez impressionnant, mais je pense que c'est une période pour lui, et d'ailleurs ça se sent dans les entretiens qu'il donne, on sent qu'il est un peu paumé, un peu perdu, et on peut attendre de lui des belles choses, mais en tout cas c'est pas celui-là.
Mathias et Maxime, c'est donc Xavier Dolan, est-ce qu'il y a des réactions sur ce film dans le public ici? Oui, tout en haut du Théâtre de l'Alliance Française, bonsoir.
Bonsoir. Mais moi, je rejoins assez ce qui a été dit. Je trouve que c'est pas le meilleur film de Xavier Dolan. Cependant, je me suis sentie troublée. Enfin, c'était perturbant. Et en fait, je pense que la façon de filmer rend bien le fait que ils sont perdus. En fait, c'est dans leurs sentiments. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien rendu. Voilà.
Merci pour votre intervention. Pas d'autres sur Xavier Dolan. Le micro vient vers vous, madame. Bonsoir.
Moi, je suis pas du tout d'accord avec Charlotte sur le fait qu'on ne pourrait pas découvrir à 30 ans son homosexualité, son trouble, justement. Et ce qu'a rendu Xavier Dolan dans ce film, c'est aussi le groupe, la tribu. Et c'est très révélateur d'un collectif de jeunes trentenaires qui sont très bien filmés.
Merci pour votre intervention. Hors normes d'Éric Toledano et Olivier Nakache avec Vincent Cassel et Reda Kateb, les réalisateurs d'Intouchables, signent une comédie aux allures, parfois de documentaire. Bruno, c'est Vincent Cassel, et Malik, c'est Reda Kateb, portent chacun à bout de bras, et vraiment c'est un euphémisme, une association qui accueille, accompagne, voire réinsère dans la vie active de jeunes adultes autistes dits complexes, venus pour la plupart d'ailleurs des quartiers difficiles. Bruno est juif, Malik musulman, non seulement ils ne comptent ni leur temps ni leurs moyens, mais ils doivent aussi se battre, surtout Bruno d'ailleurs, contre les pouvoirs publics incarnés ici par les inspecteurs Frédéric Pierrot et Suliane Brahim, qui leur cherchent des noises et surtout qui leur refusent l'agrément, lesquels d'ailleurs pouvoirs publics sont bien en peine de prendre eux-mêmes en charge ces autistes, de vrais autistes qui jouent leur propre rôle, y compris d'ailleurs dans les moments de crise, avec un Vincent Cassel que moi je n'avais jamais vu aussi sensible, aussi humain et généreux, avec un final chorégraphique que je ne raconterai pas, c'est promis, mais qui m'a beaucoup ému. Michel.
C'est un très bon film. C'est un très bon film. D'abord, c'est surprenant parce que c'est tout de même un film dans l'ensemble, je dis bien dans l'ensemble, plutôt grave, mais avec beaucoup d'humour. Et je lisais...
Qui a toujours été la force et la marque du couple Toledano-Nakache.
Oui, et ça rejoint toujours le thème c'est-à-dire de sortir les gens de l'isolement et faire que les gens se retrouvent dans un groupe. Alors, on va dire, c'est du feel-good movie, c'est vrai, c'est l'anti-Ken Loach, si vous voulez. C'est-à-dire, on n'est pas dans le désespoir, dans le tout est fermé.
Mais c'est pas le sens de la fête non plus, tu vois.
Non, mais il y a tout de même une volonté positive, avec deux personnages, ne serait-ce que les deux personnages principaux, où l'un est un musulman pratiquant et l'autre est un juif qui porte la kippa, et qui sont tous les deux d'ailleurs formidables, Reda Kateb et Vincent Cassel, tous les deux sont formidables, mais a priori, on pourrait voir des antagonistes, pas du tout. Donc c'est tout de même un film qui a une vision assez optimiste de la société. Moi, j'ai beaucoup aimé.
Mais pas des pouvoirs publics. Hein.
Et je trouve que l'humour, c'est important, l'humour, parce que c'est ce que dit Steven Soderbergh dans ce magnifique film qu'il a sur Netflix, sur les Panama Papers, qui est un film formidable. Il dit qu'il avait un projet sur le cerveau. Et il demandait à des spécialistes du cerveau, qu'est-ce qui amène les gens à changer d'opinion, à faire évoluer leurs sentiments? Et tous les spécialistes du cerveau répondent, le rire. Le rire peut faire changer les gens beaucoup plus que les pleurs. Et les films de Tony Dano et Nakache, c'est ça qu'ils font. C'est-à-dire, par le rire, ils nous amènent à changer notre point de vue sur les choses.
Avec des moments très émouvants, parce qu'on ne fait pas que rire. Jean-Marc.
Moi, je trouve ça ni drôle, ni émouvant, mais vraiment horripilant tout le temps.
Horripilant?
Horripilant. Vraiment, le film m'a mis en colère, je crois.
En colère.
Ouais, je trouve. D'une part, je trouve que le film est catastrophique en termes d'écriture, de filmage. Je trouve que même à l'intérieur, disons, du programme Toledano et Nakache, je trouve le film très mauvais. Mais je retrouve aussi ce que je n'aimais pas déjà dans leurs films plus réussis. C'est-à-dire que d'une part, cette espèce de charge systématique dans leurs films, c'était déjà le cas dans Intouchable, contre les pouvoirs publics, cette espèce d'anti-étatisme. Enfin, il y a vraiment quelque chose du côté de l'hyper-libéralisme et une charge systématique des pouvoirs publics qui sont vraiment caricaturés avec le personnage dont
mais
tu parles.
Mais c'est la réalité.
Oui, enfin,
je peux te dire que les deux associations, c'est-à-dire Le Silence des Justes et Le Relais Île-de-France.
Enfin, c'est certes, c'est inspiré de personnes qui existent.
Et sont, ensuite, la directrice il y a le choix de représenter comme ils représentent les deux Michet, spectateurs. N'est pas du tout chargée et au contraire, il y a un regard quand même généreux sur son travail.
Mais ces gens
et
qui
engagement.
Refusent l'agrément à des associations qui soutiennent des autistes, qui sont incapables même de prendre en charge, c'est pas caricatural.
Je pense que la façon dont ils caricaturent ces deux inspecteurs, elle est extrêmement manichéenne. Et par ailleurs, je trouve que le dosage dans le film entre les moments, le côté punchline, culture de la vanne, à mon avis, est très peu réussi. Et ce qui me gêne surtout, c'est que les personnages de jeunes adultes autistes ne sont pas du tout regardés. C'est-à-dire que vraiment, le film place au centre les deux comédiens les plus connus. Et je trouve que les personnages autour ne sont pas filmés. Et sont juste des faire-valoir au concours de punchline des deux comédiens connus. Et ensuite, quand le film bascule dans l'émotion, là, je trouve que vraiment les procédés sont tire-larme dans ce que ça peut avoir de plus grossier. Par exemple, tu parlais de la scène de chorégraphie à la fin. Tous ces inserts sur la montée de l'arme progressive de Vincent Cassel, je trouve ça obscène.
Ah ben comme quoi, on voit vraiment tous des films différemment. T'as failli te prendre une baffe sur ta droite de Xavier Le Herpeur.
Oui, mais comme il ne m'avait pas frappé au débat précédent, je me suis abstenu. Oui, effectivement, on regarde pas les films de la même manière. Et là, je trouve que c'est remarquablement écrit et filmé. Au contraire, je trouve le... Mais je sais qu'on a eu déjà ce débat sur Intouchable, donc de toute façon, toi et moi sommes toujours sur notre même lignée. C'est une histoire vraie, c'est inspiré vraiment du destin de deux personnes qu'ils connaissent très très bien, qu'ils ont pu observer.
D'ailleurs, on peut donner leur nom, c'est Stéphane Benhamou pour Le Silence des Justes et c'est Daoud Tata tout pour Le Relais Île-de-France.
Absolument. Et à partir de là, il raconte alors peut-être une France rêvée, une France qui n'existe pas, mais dont on peut espérer qu'un jour elle se mette en place, qui est une France de Babel, qui mélangerait toutes les couleurs, toutes les races, toutes les religions. La maladie n'est pas exclue. Moi, je trouve qu'au contraire, elle est traitée, les personnages existent. Il y a ce comique, entre guillemets, de répétition du type qui tire toujours le signal d'alarme dans le RER.
Je voulais pas qu'on le raconte, ça.
Non, parce qu'il y a une vraie évolution, c'est... un comique de répétition, mais pas de systématisme non plus. Il y a une vraie évolution avec la mère Hélène Vincent qui est absolument bouleversante. Ils ont une façon d'équilibrer, pour moi, à laquelle je suis extrêmement sensible, la cocasserie, parce qu'effectivement, c'est le très très bon vecteur pour ne pas rire des autistes, mais avec eux, de leur déboire, de leur quotidien, et en même temps, la vraie détresse des gens qui les entourent. Tu as cité Catherine Mouchet tout à l'heure, qui est absolument magnifique. Moi, je trouve le film très galvanisateur, aucun jugement. Je suis même pas d'accord avec le fait qu'il caricature les deux personnes qui représenteraient les pouvoirs. C'est des gens un peu paumés qui ne savent pas effectivement très très bien comment faire, qui n'ont même pas les outils eux-mêmes administratifs ou médicaux. Je trouve le film extrêmement juste. Et comme d'habitude, je terminerai là-dessus, ils ont cette capacité d'avoir un premier, un deuxième, un troisième plan dans le cadre qui fait exister différents niveaux de comédie, différents niveaux de témoignages testimoniaux, sociétaux, pardon. Et je trouve le film mais extrêmement juste, extrêmement honnête, extrêmement cohérent avec leur travail et tout à fait recommandable.
Charlotte.
Oui, moi je rejoins pas du tout Jean-Marc non plus parce que pour moi c'est pas du tout un film sur l'autisme, c'est un film sur les personnes qui les encadrent, qui les accompagnent et qui les aident à défaut de pouvoir les guérir. Ce sont des hommes et des femmes d'ailleurs qui refusent l'immobilisme, on va dire, voire même la fatalité, c'est-à-dire Que faire de ces enfants ou de ces jeunes adultes considérés comme les cas les plus lourds d'autisme?
Les réinsérer, parce qu'on verra dans le film,
les réinsérer avec
l'un d'eux entrer dans un atelier et trouver, en tout cas provisoirement, du boulot.
Du boulot avec la machine à laver, puisqu'il adore ça. Non, le scénario est extrêmement solide. Je le trouve très malin, mais pas trop. Juste ce qu'il faut, avec effectivement cette dose de légèreté et d'humour sur ce sujet grave, comme le disait Michel, qui fonctionne extrêmement bien. Il y a une espèce de justesse du regard. Effectivement, les deux réalisateurs connaissent visiblement extrêmement bien ce tissu associatif pour avoir côtoyé ces hommes dont le film est inspiré depuis plus de 20 ans, je crois, et ça se voit. C'est-à-dire, c'est pas des réalisateurs qui débarquent et qui ont une idée un peu préconçue de ce qui se passe en France, puisqu'il s'agit quand même d'un sujet de société terrible et sur lequel il faut qu'on trouve des solutions. Et moi, je trouve que propose vraiment une histoire sans pathos, sans angélisme, sans mièvrerie.
Sans pathos, vraiment.
Mais oui, Jean-Marc, mais oui, moi je trouve qu'il n'y a absolument pas du tout de pathos, pas du tout. Et cette histoire de sonnette d'alarme, effectivement, comme fil rouge du film, on peut y voir aussi la métaphore de ce que fait le film lui-même, à savoir tirer la sonnette d'alarme sur une situation en France sur laquelle il faut qu'on trouve des solutions.
Jean-Marc bouge, je le sens d'ailleurs, ça chauffe près de moi. Est-ce qu'il y a des réactions sur Hors Normes, sur ce film? Non. Alors, on passe à Sorry We Missed You. Désolé de vous avoir manqué, le 25e film de Ken Loach, 86 ans, qui était en compétition à Cannes, mais ça ne lui a pas valu. Après, Le Vent se lève et Moi, Daniel Blake, sa troisième Palme d'Or, et c'est avec Chris Hitchens, Debbie Honeywood et Rhys Stone. Ça se passe dans la banlieue ouvrière de Newcastle, où vivent Ricky, Abby et leurs deux enfants. Le père, donc, qui est joué par Chris Hitchens, qui enchaîne les jobs mal payés dans le bâtiment, la mère qui visite les personnes âgées à domicile, et puis un jour, dans l'espoir d'acheter un pavillon, Ricky décide de devenir chauffeur-livreur pour une plateforme de vente en ligne. Sa femme vend même sa voiture pour qu'il puisse acheter une camionnette. Rien, évidemment, ne va aller comme prévu dans ce film où Ken Loach part en guerre contre l'ubérisation du travail. Et sa devise, travailler plus pour gagner moins, c'est efficace. On peut discuter de l'art ou non de la nuance, mais en tout cas, c'est efficace, Charlotte.
Ah oui, alors moi, il y a quelque chose qui me fascine. Ça fait quoi, Michel? 40 ans qu'il fait du cinéma, Ken Loach?
Non, 60 ans.
Oh non, beaucoup plus, il a 86 ans.
Il a commencé. Oui.
Bon, ok, donc, enfin, en tout cas, ça fait très longtemps. Et le monde a changé à une vitesse grand V depuis ses débuts. On est passé de l'exploitation de l'homme par l'homme à l'homme par la machine, puis à l'homme par les algorithmes aujourd'hui. Le monde du travail a terriblement changé en 4, 5 ou 6 décennies et le cinéma de Ken Loach, en tout cas dans sa veine sociale et politique, ne bouge pas d'un iota. Et c'est pourtant toujours d'une efficacité absolument redoutable.
C'est ce que je disais, c'est efficace.
Mais oui, c'est très efficace et ça me fascine que ce soit toujours efficace à ce point, alors qu'il traite d'un sujet d'une certaine manière nouveau à chaque fois, c'est-à-dire totalement en phase avec l'époque dans laquelle il s'inscrit. Et ce qui est assez fascinant, c'est qu'on n'a aucune surprise, c'est-à-dire ce pauvre homme qui va donc décider d'être auto-entrepreneur et non, ce qui en fait veut dire employé.
Enfin, il est à son compte,
pour une plateforme de vente en ligne. On sait qu'il va se prendre le mur, il va se faire broyer par le système dès le début en tant que spectateur, on l'a compris. Il se mange le mur, on n'a aucune surprise et pourtant c'est émouvant. Et je trouve que c'est très émouvant parce qu'on voit la bombe à fragmentation que ce système induit dans les cellules familiales, puisque les répercussions sont aussi dans son couple et pour ses enfants adolescents. Et que le film arrive très bien, je trouve, à montrer aussi trois générations. Il y a les parents, il y a les enfants adolescents et des personnes plus âgées qui vivent dans une extrême solitude. Et enfin, pour finir, je trouve qu'avec Moi, Daniel Blake, il s'agissait d'un retraité en fin de droit qui finissait par taguer son nom sur les murs pour exister, pour lutter contre son invisibilité dans la société. Là, c'est un ado qui le fait et je trouve ça profondément émouvant.
Michel.
Oui, c'est ça le problème, Ken Loach. C'est à la fois un très très bon metteur en scène, qui n'ait pas eu une troisième Palme d'Or, je trouve que c'est heureux, parce que on devrait donner deux ou trois ou quatre Palmes d'Or à des gens qui se renouvellent et qui tentent des choses. Mais Loach, il est fidèle à sa méthode, qui est imparable. C'est un mécanisme, un engrenage. Comme le disait Charlotte, il est totalement en phase avec la société d'aujourd'hui, comme il l'a été avec la société d'hier. Les comédiens sont toujours exceptionnels. Paul Lavertis.
On se demande même chaque fois où il les trouve, parce que
oui, oui, mais c'est formidable.
On les connaissait pas.
En même temps, c'est vrai que il y a un côté un peu démonstratif chez lui. Alors, ça, je veux pas du tout enlever à la qualité du film, qui est réel. Et puis, je voudrais faire un petit commentaire. Le titre Sorry We Miss You, c'est ce que les livreurs laissent à la porte. Excusez-nous, vous n'étiez pas là. Mais on pourrait l'appliquer aux enfants. Parce que les enfants aussi ne le disent jamais dans le film, mais c'est ce que le film implique. C'est, excusez-nous, mais vous nous avez manqué. Parce que les parents ne s'occupent plus de leurs enfants. Ils sont tellement pris dans une course de vitesse, dans gagner du temps,
etc. La
femme, elle est à domicile, elle soigne les gens. Lui, il livre des choses pour une société, etc. Donc, ils sont tout le temps rattrapés par le temps. Ils n'arrêtent pas de s'activer. Et du coup, ils ne s'occupent plus de leurs enfants. Donc, sorry we miss you, c'est aussi ce que les enfants implicitement disent à leurs parents.
Jean-Marc.
Oui, moi aussi, je suis assez impressionné par la puissance d'observation de Ken Loach du contemporain, la précision de sa critique et la façon dont il sonde les évolutions de son grand ennemi qu'est le capitalisme et la manière dont il est capable, à l'âge qu'il a, avec la longueur de pratique qu'il a, d'en comprendre les derniers avatars. Ça, c'est assez fort. Ma réserve, c'est que j'ai l'impression, d'une part, moi je trouve que les scénarios de Paul Laverty sont toujours un peu trop ficelés et la manière dont régulièrement la dramaturgie est relancée par exemple des clés qu'on a volées, c'est pas la personne qu'on croit qui les a volées. Je trouve qu'il y a vraiment des trucs comme ça pour garder un état de crise et de suspense qui me semble toujours un peu artificiel chez lui, qui sont compensés par une qualité d'incarnation, sa qualité de direction d'acteur, mais surtout je trouve qu'il n'y a rien de plus que ce qu'il veut démontrer et je trouve qu'il y a un défaut d'imaginaire, enfin quelque chose qui pour moi fait la grandeur du cinéma et qui est absent de ses films. Il n'y a jamais plus que ce qu'il veut y mettre et à un moment donné moi ça me frustre comme spectateur.
Xavier.
Je suis complètement d'accord avec Jean-Marc. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, il arrive même à ne plus traiter le vrai sujet de l'ubérisation à force de le relancer par des artifices de scénario, tu en as cité certains. Il y en a d'autres jusqu'au bout. Et on a envie de lui dire, non, il aurait vraiment fallu que l'ubérisation jusqu'au bout broie le personnage. Mais ils sont obligés, Paul Laverty et lui, de faire rentrer dans le film des éléments qui vont encore un peu plus mettre la tête du héros dans l'étau, effectivement, de cet engrenage fatal qui est l'ubérisation, qui est donné comme tel dès le départ. Bien sûr qu'on souscrit à cette idée, mais il aurait fallu un peu de finesse, peut-être, pour l'écrire. En revanche, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est l'autre film. C'est, pour la première fois, la désolidarisation entre la génération des parents et celle des enfants. Habituellement, chez Ken Loach, c'est très soudé. Le milieu prolétaire se tient les coudes. Et là, l'enfant, le fils, qui est formidable, déteste son père. Le considère vraiment comme un loser, comme un perdant, l'humilie constamment. C'est presque la première fois qu'on voit ça avec cette force-là, cette puissance nocive, toxique chez Ken Loach. Et ça apporte, justement, là, un côté contemporain dans le film que le reste ne effectivement, on se place dans une actualité très contemporaine, mais le film n'est pas tant que ça.
Sorry We Missed You, c'est le film de Ken Loach. Camille, le deuxième film après Hope de Boris Lochkine avec Nina Meurice. Étonnante pour moi, Nina Meurice dans le rôle titre, mais aussi Bruno Todeschini, Grégoire Collin, Fiacre Bindala, un film bref, 1h30, dont le tout premier plan tient lieu d'épilogue, je ne vais pas en dire plus. Pour retracer les derniers instants d'une vie brève, celle de la photojournaliste française Camille Lepage, tuée d'une balle dans la tête en Centrafrique, c'était le 12 mai 2014, elle avait 26 ans. Elle accompagnait, à cheval sur une moto, un groupe armé de miliciens chrétiens anti-Balaka qui est tombé dans une embuscade tendue par des mercenaires musulmans de la Séléka. Camille Lepage était arrivée en 2013 à Bangui, en octobre 2013, au moment où le pays sombrait dans la guerre civile. Elle a photographié, elle a témoigné, quand d'ailleurs la plupart des envoyés spéciaux quittaient cet enfer. Elle a pris tous les risques et c'est ce que montre ce film. Tourné très souvent caméra à l'épaule avec essentiellement des centrafricains et porté donc par cette Nina Meurice que je ne connaissais pas. Film dont le format d'ailleurs est inhabituel en 1.5 pour permettre à Boris Lochkine d'intégrer les vraies photos, admirables photos de Camille Lepage. Je crois que Jean-Marc ne l'a pas vu, Xavier.
Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant. C'était très casse-gueule. On s'est beaucoup fait engueuler pour ne pas avoir soutenu Sœur d'armes, par exemple, de Caroline Fourest.
C'est exactement l'opposé.
C'est
pas un film à thèse.
Et la grande différence, c'est la mise en scène. C'est-à-dire qu'effectivement, outre la composition d'Nina Meurice, qui est absolument
l'interprétation.
L'interprétation, on est bien d'accord. Mais en revoyant le film, il y a une intelligence, de la mise en scène qui mélange les points de vue à l'écran, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le point de vue documentariste
reporter, journalistique, et puis le sien, la manière dont elle va rentrer dans l'image. Parce que la deuxième scène, elle rencontre un grand journaliste qui lui dit « Oui, elles sont bien vos photos, mais il n'y a pas de point de vue. Je ne sais pas très bien ce que vous voulez faire. Montrez-moi comment vous allez les monter. » Elle dit « Ben ouais, je ne sais pas très très bien faire. » Lui dit « Mais vous n'apprendrez que sur le terrain. » Et le film apprend avec elle. Et je trouve que ce mélange de caméra sur l'épaule, puis de caméra posée, qui termine par l'image, par la photo prise, montre la sédimentation justement du travail, non seulement de l'héroïne, de Camille, mais aussi de tout journaliste. Et la mise en scène, très discrètement, mais de façon très précise et très marquée, raconte cela également, et pas simplement le martyr de cette jeune femme. C'est vraiment un film extrêmement
avec
intéressant.
Avec des Centrafricains qui jouent tous ces rôles, d'ailleurs très importants dans le film, qui ont eux-mêmes participé, parfois leur corps défendant,
absolument,
à cette guerre civile. Donc ça rend le film encore plus troublant quand on le voit, Michel.
Alors, c'est d'abord le fait que Boris Lochkine a fait beaucoup de documentaires, c'est son deuxième film de fiction, mais
Hope, c'était déjà un film d'ailleurs.
Mais ça sert beaucoup le film parce que effectivement, pour faire un film sur un photojournaliste, d'avoir été documentariste, ce qui est très proche, évidemment, ça rend le film très fort dans la reconstitution, dans le tournage lui-même, qui est d'une précision incroyable, avec des scènes hallucinantes qu'il a pu reconstituer. Ce que j'ai trouvé également très passionnant dans le film, c'est cette femme qui est constamment pas en porte-à-faux, mais elle arrive pas. Et le problème, c'est comment se situer par rapport à la réalité qu'elle filme. C'est-à-dire, en tant qu'occidentale, elle n'arrive jamais à se faire vraiment accepter par les indigènes, par les gens du pays.
Oui, tout en faisant le choix de vivre chez l'habitant et pas dans les fameux hôtels où vont tous les envoyés spéciaux venus d'Europe. Elle est au contact de cette population constamment.
Oui, mais
elle essaie de l'intégrer.
Il y a un fossé entre, malgré tout ce qu'elle peut faire, il y a un fossé entre elle et cette population. En tant que femme aussi, en tant que membre de sa famille, quand elle rentre chez elle, on voit bien aussi qu'elle est déphasée. Donc c'est quelqu'un qui n'est jamais à l'aise dans ce qu'elle vit. À part ça, je trouve le film, enfin pas à part ça, parce que c'est une vraie qualité du film, qui est pas seulement un document sur... Alors moi, évidemment, le problème, c'est que ce Centrafrique, c'est très compliqué à comprendre. C'est-à-dire que c'est pas comme Milosevic ou Bachar el-Assad ou les talibans en Afghanistan, où elle est vraiment...
C'est même plus compliqué que
les crimes contre l'humanité.
Les Hutus au Rwanda.
Là, c'est très difficile de savoir exactement ce qui se passe entre les milices musulmanes, entre les chrétiens qui se font la guerre dans une sorte de guerre civile. Mais
enfin, la guerre religieuse, on la comprend, en tout cas.
On la comprend. Mais d'ailleurs, elle est plutôt du côté chrétien.
Ben, là, à ce moment-là, voilà. Dans ce
moment-là,
pays,
elle rejoint les anti-balakars.
Ce qui est amusant, d'ailleurs, c'est que la seule mauvaise critique que j'ai lue, c'est dans Libération. Alors je me suis dit, mais pourquoi ? Et alors d'un seul coup, je comprends très bien ce qui se passe. Dans le film, elle rentre à son journal, Libération, et elle dit, on lui dit, bah, ça suffit, hein, les lecteurs, le Centrafrique, ils en ont marre, etc. Tu devrais aller en Ukraine. Alors du coup, elle dit, mais non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le Centrafrique. Alors ça, c'est une pointe très très bien, mais ça a été noté.
Charlotte.
Comment basquer la plume de dire ça, ça va me coûter cher.
Ce qui est très intéressant, donc je rejoins vraiment tous vos éloges, j'aime beaucoup le film, c'est aussi que c'est un point de vue qu'on a rarement au cinéma, c'est-à-dire la figure du reporter de guerre, c'est souvent quand même un homme d'une cinquantaine d'années, 60 ans, un baroudeur avec les gilets avec plein de poches et tout ça. On voit jamais une jeune fille de 25 ans qui n'est pas encore une grande artiste, donc ça n'est pas la biographie d'une artiste, elle a pas eu le temps malheureusement de le devenir, elle n'est photographe que depuis quelques années.
Mais elle va le devenir quand on voit les photos dans le film. Hein.
Certainement, et elle n'est pas encore cynique, désabusé ou alcoolique, enfin voir les trois à la fois, ce qu'on voit souvent dans cette figure-là au cinéma. Et au-delà de l'interprétation de Nina Meurice, qui est effectivement vraiment mérite tous les éloges parce qu'elle est formidable, elle a une sorte de douceur et en même temps elle est orgueilleuse, elle est déterminée.
Sans être comédienne dans le mauvais sens du terme.
Non, pas du tout, mais elle reste très mystérieuse. Les motivations de Camille Lepage pour être au plus près de la population et prendre des risques à ses propres risques et périls, ça reste assez mystérieux. Et moi, j'aime ce mystère. J'aime qu'on ne m'explique pas pourquoi cette jeune fille va partir avec son sac au dos pour risquer sa vie pour faire des photos. C'est une tête brûlée et ça donne une épaisseur au personnage que je trouve extrêmement intéressante.
Camille de Boris Lochkine avec l'étonnante Nina Meurice. Martin Eden, l'adaptation très libre par l'italien Pietro Marcello du roman en partie autobiographique de Jack London. Je lis partout que c'est en partie autobiographique, paru en 1909 avec Luca Marinelli. Dans le rôle-titre, Marcello transpose dans l'Italie du XXe siècle, mais au sens très large, hein, et plus précisément à Naples, l'histoire californienne de ce jeune homme pauvre qui va être aveuglé par l'amour et les richesses dont il a toujours été privé, de ce marin illettré aux yeux bleus qui s'éprend d'une grande bourgeoise, c'est la blonde Elena Orsini. Autrement dit, Jessica Cressy qui va l'initier à la littérature et faire de lui un écrivain. Film traversé là d'images d'archives. Quant à Luca Marinelli, bah, il a obtenu le prix d'interprétation masculine à la Mostra de Venise. Xavier?
Moi, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. D'abord, j'aime beaucoup ce que fait Pietro Marcello. Son auteur, on se souvient, il y a une dizaine d'années maintenant, de La Bocca del Lupo, qui était une merveille absolue, qui était un documentaire reconstitué en partie aussi grâce à des images d'archives commandées d'ailleurs par l'Office catholique de Naples et qui racontait les amours d'abord en prison puis ensuite en liberté d'un bandit absolument magnifique avec un transgenre. Et c'était un film bouleversant qui racontait les mutations de l'Italie, de cette ville, du monde prolétaire. Il reprend un peu la même technique. Mais ça n'est pas une technique, puisque c'est vraiment une source d'inspiration cinématographique formelle dans ce film, Martin Eden, où l'adaptation de Jack London est traversée effectivement par l'arrivée de documentaires sur le monde prolétaire, de films néo-réalistes italiens en mélange des époques. On termine sur du Visconti ou sur Vittoria De Sica.
C'est le 20e au sens large, parce qu'il y a un peu de tout.
On annonce une guerre sur la plage à la toute fin, mais il y a en même temps à la fois des miliciens et en même temps des naufragés, des gens qui auraient pu prendre la mer et qui sont des migrants. Donc, et en même temps, ça fait un film qui n'est jamais poseur. C'est un immense hommage, non seulement effectivement à l'intériorité de l'auteur, comment est-ce qu'on se construit, comment on se déteste, comment on se détruit, et en même temps, c'est un immense hommage au cinéma italien et à sa veine néo-réaliste, prolétaire, ouvrière. Je trouve que c'est un film qui nous étonne constamment, éblouit tout le temps, et vraiment recommandable.
Jean-Marc?
Oui, c'est vraiment un film très réussi, qui prend des risques tout le temps, qui est très audacieux, qui est, c'est traversé par beaucoup de souvenirs de cinéma, et en même temps, c'est extrêmement original, ça ressemble quand même à peu de choses, et on est vraiment dans le monde cinématographique d'un auteur, de façon très intense, et c'est extrêmement gracieux, quoi. Tous les risques qu'il prend sont payants. Le comédien a été vraiment très justement récompensé parce qu'il porte le film, il a un charisme incroyable, c'est vraiment la naissance, la rencontre entre un personnage, un corps, une présence de façon inouïe. Je trouve que le film est vraiment très réussi.
Michel.
Oui, c'est un très très beau film qui retrouve toutes les grandes qualités du cinéma italien, c'est-à-dire un mélange de réalisme.
Mais qu'on n'avait pas vu depuis quand même longtemps. Hein.
Longtemps, un mélange de réalisme. Alors évidemment, transposé de la Californie à Naples, c'est très justifié parce que les villes portuaires ont beaucoup de choses en commun.
C'est deux grandes baies.
C'est comme les paysans du monde entier, ils ont des choses en commun et les villes portuaires ont beaucoup de choses en commun. Et d'autre part, le romanesque. Et en particulier, ce personnage clivé entre d'une part son côté nietzschéen individualiste très fort et en même temps le souci du bien commun. Donc il est totalement tiraillé entre ces deux choses, c'est-à-dire comment il est attaqué par les socialistes, il est attaqué par la droite, et il traverse des épreuves très difficiles, mais il est toujours dans un nœud de contradiction et c'est magnifiquement interprété par le comédien évidemment.
Charlotte.
Je rejoins mes camarades sur le côté geste de cinéma, c'est-à-dire que c'est un film qui est d'une richesse formelle complètement dingue, la narration est
explosée. Le film est assez long d'ailleurs, hein, c'est 2h10.
Oui, Xavier disait c'est un film qui étonne constamment, je suis d'accord, il est éminemment imprévisible et assez déstabilisant. Il y a une idée par séquence, que ce soit le son, la musique ou le montage, parce qu'il y a un montage très particulier par lequel arrive de la poésie. Mais malgré tout, moi, au bout d'un moment, j'avoue que je me suis un peu lassée quand même de cette grande richesse Maelstrom. Je me suis sentie un peu perdue. Je n'avais pas beaucoup d'accroche émotionnelle. Et donc, j'ai fini par un peu m'ennuyer devant ce qui est quand même un film complètement fou et dingue à voir.
Martin Eden de Pietro Marcello.
J'ai dit une bêtise, Bocca del Lupo, c'était à Gênes et non pas à Naples. Donc, il continue en plus sa transhumance dans les ports italiens.
Eh bien, tu vas garder le micro pour évoquer Maléfique, le pouvoir du mal, puisque tu voulais qu'on en parle de Joachim Rønning, la suite de Maléfique de Robert Stromberg, toujours avec Angelina Jolie dans le rôle titre, mais aussi Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Sam Riley. On est 5 ans après le premier épisode. Donc Maléfique s'oppose à l'union de la princesse Aurore, ta chère Elle Fanning, avec le prince Philips, qui est joué par Harris Dickinson, au prétexte que les histoires d'amour finissent toujours mal, ce qui n'est pas faux, comme dirait Xavier Dolan. Aurore s'entête, le père et la mère du prince s'en mêlent, rien ne va plus au royaume de la Lande. et chez Le Peuple des Fées, un film où Michelle Pfeiffer, dans le rôle de la belle-mère acariâtre, est encore plus méchante qu'Angelina Jolie. Je te laisse continuer, puisque tu voulais en parler.
C'est un rôle qui ramasse. C'est quand même assez génial. C'est-à-dire que Maléfique, donc on s'en souvient dans La Belle au Bois dormant, c'est la très très méchante, évidemment, qui a fait qu'Aurore s'est piquée, a dormi 100 ans, a été réveillée par son prince charmant. Voilà, elle veut absolument, elle lui en veut, à la pauvre Aurore. À la fin du premier Maléfique, on découvrait que palpiter est un cœur maternel dans la cage thoracique de Angelina Jolie. Je pensais qu'elle n'avait plus aucun organe tellement elle est mince, mais bon, visiblement, ils lui ont laissé le cœur. Elle est pas mince d'ailleurs, elle est maigre. Donc,
ça change pas la cage thoracique.
Plus t'enlèves d'organes, plus tu peux rétrécir quand même tout ça.
Hein. Voilà.
Et donc, elle a palpité, elle est devenue gentille parce qu'on est chez Disney, donc Maléfique ne pouvait pas être méchante. Et on commence Maléfique 2 avec une voix absolument géniale qui nous dit « Bon alors, dans le premier épisode, on a vu qu'elle était gentille, mais tout le monde l'a oublié. » Ah, c'est-à-dire qu'en gros, bah voilà, on repart comme au premier film, Maléfique et méchante, hein. Vous oubliez tout ce que vous avez vu dans le film précédent. Donc je veux déjà le scénariste qui a vendu ça chez Disney, le mec, il est super doué quand même. On efface l'ardoise, c'est comme l'ardoise magique. Donc Maléfique, elle est redevenue méchante et effectivement, elle voit d'un très mauvais œil le mariage d'Elle Fanning. Et là, je suis très embêté. Parce que d'abord, outre la laideur absolue du film qui pourrait être montré, à mon avis, dans les écoles pour dire aux gamins le ravage de la drogue, si vous prenez de la drogue, vous vivrez dans le royaume de Maléfique.
Ouais, c'est microcosmos sous LSD.
Ah ouais, mais plus personne ne touchera à quelconque bizarre substance illicite. Et j'ai dit beaucoup de mal d'Elle Fanning dans le film de Woody Allen, et je m'en excuse parce que là, je suis dépourvu, je n'ai plus aucun argument, aucun adjectif, aucun épithète qui puisse approcher la médiocrité, la médiocrité de son jeu. C'est abyssal. Et moi, je suppliais pour qu'elle se repique le doigt et qu'elle retombe dans ses 100 ans de sommeil.
Charlotte.
Non, mais c'est vraiment... C'est moi qui vais casser la gueule à Xavier si c'est à cause de lui qu'on a ce film au masque. Non, c'est vraiment terrible, quoi. Bon, au-delà de la laideur...
Mais il a proposé aussi Terminator, hein.
Ah oui, bon, au-delà de la laideur visuelle du film, c'est d'une pauvreté psychologique incroyable. Ce prince, je défie quiconque ou n'importe quelle demoiselle de tomber amoureuse d'un falot pareil. Enfin, il ne ressemble à rien, c'est un ectoplasme, on le fuit à toutes jambes.
L'acteur joue aussi dans le Xavier Dolan, je ne sais pas si vous l'avez reconnu.
Ah ben, je ne l'ai pas reconnu.
Dans le Xavier Dolan, il est remarquable. Harry Dickinson, bien sûr, c'est le jeune avocat que vient chercher Mathias à un moment donné.
Ah, oui.
Il y a une scène au milieu du film. Il est très très bien chez Dolan.
Effectivement, assez falot.
Ah non, mais là, c'est vraiment. Non, mais bon, voilà, il ne faut pas. Après, Michelle Pfeiffer, Angelina Jolie, il y a quand même un combat là de deux grandes actrices hollywoodiennes. On peut vaguement, ça nous réveille
allez,
deux secondes.
Parce que l'émission va se terminer.
Oui, alors, bon, c'est vrai que c'est kitsch, c'est vrai que les roses et les verts sont criards, c'est vrai que Elle Fanning, qui est sublime dans le film de Woody Allen, est ici absolument inexistante. Mais tout de même, j'ai pris, comme on dit, c'est inspiré par Perrault ou par La Belle au Bois dormant, j'y ai pris un plaisir pervers, pas un plaisir extrême, mais un plaisir pervers. C'est-à-dire que
c'est un peu pervers, là. Hein.
Un plaisir coupable.
De voir, par exemple, Angelina Jolie, une sorte de réincarnation de Gloria Swanson, avec qui se transforme en une sorte de monstre fumant, etc. J'ai regardé ça en me disant... Pourquoi 500 000 personnes en France sont allées voir ce film en une semaine, alors que la presse se pince le nez à l'idée d'aller de même parler de ce film? C'est que les gens, comme Hitchcock disait, ils ont envie de tranches de gâteau, parce que les tranches de vie, leur existence est tellement pénible.
Bah, c'est sûr que c'est pas les Dardennes, mais
le monde entier est en flammes. Les dictateurs, les guignols qui gouvernent la plupart des pays sont horribles. Mais ils ont envie d'évasion et ils retrouvent cette évasion.
Allez, je suis d'accord avec Michel, moi aussi, j'ai pris un vague plaisir au numéro, à l'affrontement des deux actrices. Il y a un côté un peu absolument fabuleux, une espèce de duel de diva qui est assez rigolo. Et même si
là,
tout ce qui est autour est un peu moche, je remercie Xavier de l'avoir mis au programme. Pas vu le premier, Maléfique, je suis plutôt content d'avoir vu celui-là.
C'était une formule, c'était au second degré, hein, depuis le début, mais si vous n'avez pas compris, Maléfique, le pouvoir du mal. Et puis donc, Terminator, le sixième de la franchise, hein, Dark Fate de Tim Miller, avec, on se demande d'où il sort, mais co-scénarisé quand même par James Cameron, ce qui est assez insensé.
Et produit.
Avec le cyborg Arnold Schwarzenegger, cyborg dans tous les sens du terme. C'est quelque chose d'incroyable, donc heureusement que l'émission se termine. Très vite, Jean-Marc.
Moi, c'est une franchise qui me passionne et je considère Terminator 2 vraiment comme un chef-d'œuvre, par exemple. Et même juste assez tard, même le cinquième, il y a trois ans, je le trouvais bien. Celui-là est assez mineur, mais il m'intéresse parce que la franchise me passionne. Ce qui est intéressant, c'est que c'est le retour de Cameron qui était parti après le 2. Et alors que Cameron est un cinéaste plutôt féministe depuis ses débuts, qui a vraiment écrit des personnages féminins forts, la manière dont il réécrit sa propre franchise du point de vue du féminisme contemporain, c'est assez passionnant. C'est vraiment un mouvement d'ensemble, cette espèce de féminisation du cinéma d'action aujourd'hui. Et chez Cameron, ça prend une résonance beaucoup plus personnelle, qui est vraiment pas du tout opportuniste.
Charlotte, donc tu l'as vu toi en 4DX encore?
Oui, 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 j'ai
donc
bougé dans tous les sens, je me suis pris des coups partout. Bah voilà, on sait ce qu'on va voir, on le voit et on y prend du plaisir. Moi, je trouve ça assez bien fichu. Et politiquement, c'est quand même l'anti-Rambo qui avait un regard sur les Mexicains absolument atroce. Et ben là, c'est une jeune Mexicaine qui sera peut-être, qui va peut-être sauver l'humanité. Bah ça n'a aucun intérêt, c'est Terminator en même temps, Jérôme. Vous attendiez à quoi?
Non, mais les premiers, il y avait quelque chose.
Oui, mais non, moi je trouve que même si les scènes d'action sont surdécoupé, si ça va dans tous les sens. On a du grand spectacle. Et puis, il y a toujours quand même cette réflexion sur le futur. On revient dans le passé pour bouger le futur plus tard. Il y a des choses, c'est féministe. Ben, allons-y, quoi.
Xavier. Non, mais vous êtes vachement sympa. C'est exactement le remake du numéro 1. Il n'a rien changé. Rebelote. On revient du futur pour changer. On revient du futur pour changer le futur tout en modifiant le passé. Il nous a déjà fait le coup. Alors, visiblement, on a radié déjà le premier futur pour en créer un deuxième qui, encore une fois, sous sur la gueule. Enfin, on n'y comprend rien, ça n'a aucun intérêt. Et alors, féministe, souvenez qu'il y a trois nanas, elles sont habillées comme des camionneuses.
Ah non,
qui vont dans une
elle est hyper sexy, ça va pas.
Et au dernier moment, quand elles sont toutes en train de ramper, parce qu'évidemment le méchant a eu raison d'elles, on sort un mec. C'est ça que vous appelez féministe.
Qui ne peut rien, en fait.
Bah, je suis désolé, mais qui quand même sauve la planète.
Enfin, mais pas du c'est tout, pas c'est féministe, pas le personnage masculin.
Du tout. Alors, on a retiré l'hypothèse de monsieur va à la guerre, madame fait des enfants, qui est dans le premier Terminator.
Dans le premier Terminator, c'est la mère du héros.
Le féminisme de Terminator. Alors, c'est le 3.
C'est très malhonnête ce que tu dis.
Mais c'est pas malhonnête,
dans,
j'ai
dans
vu
le film,
malheureusement.
Dans le premier Terminator, le personnage de Sarah Connor ne valait que parce qu'elle était la mère de celui qui avait sauvé l'humanité.
Sois honnête avec
alors
le
là,
film,
pour
on
le
est
coup,
bien d'accord qu'à la fin de celui-ci, c'est bien le mec qui finit par sauver tout le monde.
Bah non, ils vont en dire hommage.
Bah non, ça sera la Mexicaine.
La fin, calmez-vous. Malhonnête.
Michel, un mot.
C'est toi. Bon, les franchises tuent le cinéma américain et le cynisme, c'est de... Cameron nous dit... Écartons le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, revenons au numéro 2. Donc, il nous avoue que tout cela n'avait aucun intérêt.
C'est vrai. Qu'est-ce qui est faux, le 3
et
le 5
et
sont
en
très
plus, beaux. Et en plus, franchement,
beau, t'es sûr du mot.
Toute cette absolument. Ferraille que l'on casse en permanence, ça m'a ennuyé, mais à mourir. Ces scènes choc de violence complètement gratuites, ça n'a pour moi aucun intérêt.
Terminator de Tim Miller. Bon, allez, un conseil, mais rapide. Vous citez vraiment très rapidement un film, Xavier.
L'angle mort de Patrick Mario Bernard et Pierre Trividic. Un film qui était assis cette année sur un jeune homme invisible. Et c'est une fable à la fois fantastique, poétique et politique.
Jean-Marc.
La rétrospective Sébastien Lifshitz au Centre Pompidou. On peut voir toute l'œuvre de ce cinéaste, à la fois documentariste et qui a fait aussi de très beaux films de fiction comme Wild Side.
Un film japonais au bout du monde, drôle, mélancolique, de Kiyoshi Kurosawa, avec une jeune journaliste de la télé japonaise qui est envoyée en Ouzbékistan. Je vous dis pas ce qui va se passer, c'est vraiment parfois très drôle. Et surtout, il y a deux fois la version de l'hymne à l'amour de Piaf, mais en version japonaise. Et ça, c'est collector. Michel.
Alors, depuis pas mal d'années, on revisite le cinéma français, grâce en particulier au Festival Lumière à Lyon. Et je voudrais recommander un coffret d'un cinéaste qui a été vilipendé par Truffaut et d'autres, pas par Bazin, qu'il aimait beaucoup, mais par toute la nouvelle vague. C'est René Clément, une collection chez Studio Canal, avec vraiment des très grands films, La Bataille du Rail, Plein Soleil, Jeux interdits, Gervaise. Je vous conseille de les voir et on verra bientôt, au début de l'année, Quelle joie de vivre avec Alain Delon, également de Clément.
Charlotte.
Le bouleversant dernier plan de cinéma de Jean Rochefort dans Je ne sais pas si c'est tout le monde, un film inclassable, extrêmement poétique, beau, très émouvant et très sensible. Je ne sais pas si c'est tout le monde, du chanteur Vincent Delerme.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Charlotte Lipinska, Michel Simon, Jean-Marc Lalanne, Xavier Le Herpeur pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lisiane Selam et ce soir à la technique au théâtre de l'Alliance Française. Et je les remercie Philippe Mercher, Valentin Azan, Zielinski ainsi qu'Éric Carrère. La réalisation a été signée Xavier Pestugia. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque, c'est le 7 novembre, c'est au théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail, dans le 6e à Paris, pour deux émissions, l'une consacré au livre et l'autre au cinéma. Dans une semaine, on parle de théâtre, à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.
Jérôme Garcin, dimanche prochain.